Merci Anne. Bonsoir tout le monde. C'est très émouvant, hein, Marie-Françoise, ce que tu as vécu. Et je trouve que c'est aussi prophétique pour cette année 2020, pour notre Église. Parce que c'est rigolo, on a prié ensemble tout à l'heure avec Marie-Françoise et elle a prophétisé sur clé pour cette année. Et elle a prophétisé, alors je ne vais pas redire les mots qu'elle a dit parce que je ne me souviens pas exactement ce qu'elle a dit, mais ce que ça disait, c'était que il y avait une nouvelle saison et qu'il y avait comme des nouvelles naissances, mais aussi, ce n'est pas que des nouvelles naissances spirituelles, c'est aussi une nouvelle saison pour notre Église. Et en fait, quand j'entends son témoignage, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est une héroïne et c'est une héroïne des temps modernes. Parce que du coup, elle a tellement eu la foi en Dieu, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et je crois que pour nous, cette année, Dieu nous appelle à être des héros de cette année. Dieu, depuis quelques mois, en 2019, Dieu m'a parlé, il m'a dit 2020, ça va être spécial pour ma vie, mais je crois que ce n'est pas que pour ma vie. C'est comme si Dieu m'avait dit, il y a un décollage pour ta vie en 2020. Et en fait, je guettais, je savais que c'était vrai, parce que je ressentais que c'était vrai. Et en fait, je sentais que c'est comme s'il y avait tous les voyants qui se mettaient au vert, et que du coup, 2020, ça allait être un décollage comme jamais. Et je crois que cette année, je vais tous vous mettre au défi, c'est le début de l'année encore, et je vais vous mettre au défi de vous dire, cette année, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Rentrez dans des chemins que vous n'avez jamais fait avant. Parce que moi, j'ai expérimenté un petit peu ça en 2019. J'ai mis le pied dans, Anne a dit, hein, dans la prison, enfin, dans le milieu carcéral. Et en fait, c'est un milieu qui me dépasse, comme qui dépasse tous les aumôniers, tous ceux qui travaillent en prison. Mais en fait, je savais que moi, j'étais dépassé, mais que Dieu ne serait pas dépassé. Et donc, j'ai juste fait le pas de mettre le pied, vous savez, le petit bout de l'orteil. Et en fait, quand j'ai mis ce petit bout d'orteil, j'ai vu comme, vous savez, Pierre, quand il est sorti de la barque, eh ben, est-ce que Pierre, merci beaucoup, était destiné à marcher sur l'eau? Est-ce qu'un homme est destiné à marcher sur l'eau? Non. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à marcher sur l'eau? La foi. Et sa foi, ça s'est manifesté comment? Ah, il y a Bernard qui m'aide. Je suis content de te voir. Je t'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, ah, il est de retour parmi nous. Alors, du coup, la foi. Et qu'est-ce qui a fait que la foi, qu'est-ce qu'il a fait comme acte de foi, Pierre? Ouais, et en premier, il a fait quoi? Donc, imaginons, il y a l'eau, là. Il y a l'eau. Voilà, il a commencé à mettre le bout de l'orteil. Et en fait, parce qu'il a mis ce bout d'orteil, ça, c'est le seul pas qu'il a fait. Est-ce que certains d'entre nous, on est capable de mettre le pied dans l'eau? On est tous capables de le faire. Et Dieu, en fait, a fait le reste. Et cette année, ce que je voudrais prophétiser sur notre Église et sur chacun d'entre nous, c'est que nous, le seul truc qu'on a à faire, c'est d'oser mettre le petit orteil dans l'eau. Et si on met le petit orteil dans l'eau, Dieu va faire le reste. Et en fait, moi, je m'attends à ça pour la prison, parce que je sais qu'il y a des défis. Mais pour chacune de nos vies, si l'an passé, je n'étais pas rentré dans ce processus, je ne pense pas que Dieu m'aurait dit que l'année 2020, ça va être une année de décollage pour moi. Peut-être ça aurait été en 2025, 2030, peut-être le jour où moi, j'aurais fait le pas. Et je vous encourage ce soir, à mettre le pied dans l'eau, juste l'orteil. Mais déjà, mettre l'orteil, c'est comme ceux qui ont le vertige, si vous êtes au bord du vide et que là, en dessous, il y a 200 mètres de vide, bah déjà, se mettre là où je suis, bon, moi, je n'en serais pas capable, hein, de mettre comme ça avec les pieds qui dépassent. S'il y avait le vide, je ne pourrais pas le faire. Mais c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est qu'on fasse quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible à l'homme, c'est juste quelque chose qu'on peut faire, mais en s'attendant à ce que Dieu fasse le reste. Alors du coup, je vais peut-être changer, Anne a dit qu'on allait changer un peu la façon de faire. Alors, je vais peut-être changer tout ce que j'avais prévu, parce que du coup, je vais obéir à ce que Dieu a prévu. Le titre de mon message, c'est « Si t'es pas là, ça sert à quoi ?» Bon, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, je vous expliquerai une prochaine fois. Sauf si vous insistez. Bon, alors... on fera ça, mais on fera pas le reste, c'est pas grave. En fait, j'ai été opéré il y a quelques mois, et c'était une opération bénigne. Hein. Mais moi, c'était ma première opération. J'avais jamais été opéré, jamais été anesthésié. Et en fait, depuis que j'étais petit, c'était un peu un fantasme de me dire, je me réjouis d'un jour d'être opéré. Allez savoir pourquoi. En fait, pourquoi c'était un fantasme? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, mon cousin s'est fait opérer, tout ça. Et en fait, je sais qu'on te pique et qu'après, tu as un produit qui t'endort. Et moi, je m'étais dit, moi, on va me piquer, mais je ne veux pas m'endormir. Je vais résister et je vais réussir à ne pas m'endormir. Et donc, c'était mon kiff quand j'étais petit. Donc, je me suis dit vivement que je me fasse opérer. Comme ça, je vais pouvoir résister au produit. Bon, je ne vais pas résister au produit. Hein. Ce qui est très rigolo, c'est que dès qu'on nous pique, on tombe au bout de 5 secondes. Et on est réveillé aussi au bout de 10 secondes. C'est ça qui est assez fou. C'est qu'au bout de 10 secondes, on est réveillé. Et donc je m'endors. Et puis, 10 secondes après, je suis réveillé. Et donc là, je suis couché. Et donc, je commence à doucement ouvrir les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je me dis, ah, ça y est, c'est déjà fini. Punaise, ça fait il y a 10 secondes, j'étais encore en train d'être endormi. Et là, je suis déjà réveillé. Et puis là, je me réveille donc petit à petit. Et je me dis, je commence à... Moi, je me suis opéré ici. Hein. Donc, je commence à avaler et je sens aucune douleur. Je me dis, waouh, on m'avait dit que j'aurais des douleurs. Et je dis, mais j'ai aucune douleur et je me sentais en forme. Bon, il y avait aussi le produit de l'anesthésie, mais je me sentais hyper en forme et j'avais aucune douleur. Et en fait, d'un coup, j'ai senti, avant même que je me réveille, j'ai senti la présence de Dieu. Alors, c'était un mélange du Saint-Esprit et puis de drogue qu'on m'avait injecté. Mais il y avait les deux. Il y avait les deux. Parce qu'en fait, Dieu m'a vachement parlé. Du coup, j'étais hyper euphorique toute la journée. Et puis le soir, en me couchant, je me suis dit, attends, c'était le Saint-Esprit ou c'était les produits anesthésiants? Je savais pas trop. Mais en fait, par la foi, je sais que c'était les deux. Parce que Dieu était là à mon réveil. Et ça, je peux l'affirmer, même s'il y avait des produits euphorisants. Mais Dieu était là. Et en fait, bon, tout ça pour dire quoi? Quelques mois après, il y a deux, trois mois, un matin, j'étais en train de prier. Et puis Dieu me rappelle ce moment où je me suis réveillé dans sa présence. Et là, j'ai eu l'idée de me dire, imaginons, et je vous demande de vous mettre en situation, imaginons un matin, vous vous réveillez, ok? Et imaginons, bon, il faut aller loin dans l'imagination, mais on va y aller quand même. Imaginons que Dieu n'existe pas. Imaginons que Dieu n'est plus sur Terre. Dieu n'est plus dans le système solaire. Dieu est dans un autre système solaire, mais il n'est pas sur Terre, ni dans notre univers, ni dans la Voie lactée, il est ailleurs. Okay? Donc, j'ai juste pensé. Bon, allez savoir pourquoi j'ai juste pensé. Et en fait, je me suis dit, et dites-vous la même chose, qu'est-ce que vous allez faire si, imaginons, Dieu n'existe pas? Mais Dieu n'existe pas, hein, il n'existe pas pour de vrai. Hein, il n'est pas loin, il ne va pas revenir, il n'existe pas. Le matin, vous vous réveillez et il n'y a pas sa présence. Bon, ça peut arriver, de ne pas sentir sa présence, mais Dieu n'est pas là. Qu'est-ce que vous allez faire de la journée? Ouais, s'ennuyer, c'est vrai. Mais du coup, je vous laisse réfléchir un petit peu. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup? Bon, la journée, imaginons, vous avez le boulot qui part, donc vous vous préparez, vous déjeunez et vous allez bosser. Puis le soir, vous rentrez chez vous, puis là, vous dites, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que je fais dans la semaine? Qu'est-ce que je fais dans le mois? Qu'est-ce que je fais dans l'année qui vient? Et en fait, la pensée que j'ai eue, c'est de me dire, mais en fait, tout ce qu'on fait, si Dieu n'existe pas, ça sert à quoi? Mais ça sert à rien. Et là, j'ai eu un temps d'intimité avec Dieu assez fort, où en fait je voyais que toutes les actions que je faisais à chaque instant, si Dieu n'était pas là, ça servait à rien. Mais vraiment, quand je dis à rien, c'était à rien du tout. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Même presque le truc le plus kiffant ne sert à rien. Et là, en fait, j'ai compris mieux le verset qui dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Seigneur. Bon voilà, vous avez su pourquoi le message s'appelle « Si t'es pas là, ça sert à quoi ?» Du coup, ça m'a tellement touché. Moi, je suis pas musicien, mais j'ai fait une musique. Enfin, j'ai pris une musique. Pendant ce temps, en fait, Dieu m'a montré une musique que je connaissais, une musique pas chrétienne. Et en fait, cette musique, elle dit, bon, je sais plus le titre. Mais dans les paroles, ça dit un truc comme ça, là. Si t'es pas là, c'est pas ça sert à quoi, mais je sais plus, bon, je pourrais vous le dire, je sais plus le titre. Mais j'ai changé les paroles, et du coup, j'ai chanté cette chanson pour pas oublier, et pour me dire, Seigneur, je veux jamais oublier que si t'es pas là, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et en fait, souvent, le matin, quand je prends mon temps avec Dieu, je me mets cette musique. Alors, c'est moi qui chante, donc c'est pas une grande chanson, mais moi, ça me parle, parce que je me rappelle que si t'es pas là... Je me suis mis une alarme pour pas dépasser. Bon, j'ai déjà fait un tiers de mon temps et j'ai pas commencé le message, mais c'est pas grave. Alors du coup, une deuxième chose que Dieu m'a dit et que je crois que c'est pour nous cette année, c'est le psaume 46, 11 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et en fait, ce verset, il m'a vachement travaillé. Il m'a travaillé comme jamais il m'a travaillé depuis que je suis chrétien. Et en fait, c'est Dieu qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Alors ça paraît un peu bizarre, hein. Dans le sens où souvent on se dit c'est la saison in-out, Et en fait, quand j'ai présenté un peu mon message à Toine, qui supervise les orateurs et qui m'a beaucoup aidé pour le message, il m'a dit, c'est bizarre, hein, une saison in-out, de prendre le verset, arrêter, et sachez que je suis Dieu. Mais je vais quand même le prêcher, hein, il m'a dit que c'était bon, hein, mais je vais quand même le prêcher, parce qu'il y a une pépite dedans que je veux partager avec vous. En fait, ce verset, il reprend le passage que je ne vais pas lire. Dans les 10 commandements, il y a le passage où il est dit « Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel ». Dans une autre version, il est dit « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier ». Et on voit en fait, ça nous rappelle un peu la prière de Jésus « Que ton nom soit sanctifié ». Et en fait, ce jour du sabbat, c'est quoi? Alors si on prend à l'époque des Juifs, hein, c'était une journée, bon les Juifs le font encore aujourd'hui, c'était une journée, 24 heures, juste consacrée au Seigneur, c'est-à-dire être en admiration devant le Seigneur. Et en fait, je me dis, waouh, mais là, il y a quelque chose de puissant. Aujourd'hui, on se dit, on n'est plus dans la loi, on fait plus, voilà, on n'est plus obligé de faire ça pour plaire à Dieu. Mais quand même, il y a un principe que les Juifs y vivent encore, qui est juste incroyable. Quelle est la personne d'entre vous qui réussit à avoir 24 heures, bon, il faut dormir, on va dire, je sais pas, 18 heures ou je sais pas, consacrée juste à méditer Dieu, juste à être là pour dire, sachez que je suis Dieu, sachez que j'existe. Et en fait, on est dans un siècle où la vie va à 200 km/h, et encore même plus pire que ça. Une vie où c'est terrible, une vie où on a tout le temps des stimulus, je sais pas comment on dit, on est tout le temps attiré par plein de choses, on a tout le temps nos sens qui sont attirés par plein de choses, tout le temps. Comme ça n'a jamais été avant, hein. Il y a un siècle, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il y a 10 ans, c'était pas comme aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera sûrement plus grave qu'aujourd'hui. Mais on est dans un temps où on s'arrête jamais, où nos pensées, même si on est arrêté, on reçoit les textos, on va sur Facebook, on voit... Même si on a assis toute la journée, on peut être occupé. Et en fait, si on était aux 24 heures du Mans, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut être tout le temps à droite et à gauche. Et en fait, je crois que c'est pour ça que Dieu nous dit ce matin, en fait, 2020, ça va être une année où arrêtez et sachez que je suis Dieu. Sans ça, vous ne pourrez pas décoller. Et je crois que Dieu nous dit, si vous voulez être des héros de 2020, il faut savoir s'arrêter. Et la première chose, c'est que sachez que je suis Dieu, c'est de se glorifier de sa présence. Sa présence, c'est un truc incroyable. Moi, quand je vais en prison, souvent, je témoigne, je dis aux gens, mais si vous saviez le kiff que c'est d'être dans la présence de Dieu, c'est mieux que n'importe quelle drogue, c'est mieux que n'importe quel amour pour une femme ou une femme pour un homme. Souvent, je leur dis, vous savez, la personne que j'aime le plus, ce n'est pas ma femme, c'est Dieu. Mais je les rassure après, je leur dis, vous savez, ma femme, c'est pareil, hein. Elle a quelqu'un qu'elle aime plus que moi, c'est Dieu. Et ils sont là, ils sont un peu penauds à dire, il est fou ce gars. Et je pense qu'en prison, les gens ils me prennent un peu pour un fou, mais ce n'est pas grave. Et en fait, c'est vrai que contempler Dieu, c'est juste incroyable. Et en fait, ce jour de sabbat, ou ce temps d'arrêt, c'est un peu ce qu'on va goûter quand on sera au paradis. Parce qu'au paradis, on sera tout le temps dans la présence de Dieu, on pourra le contempler, et ça sera juste incroyable. Et du coup, ce sabbat, ça commence déjà par contempler Dieu. Après, bien sûr, quand on est dans sa présence, lui, il est saint, il est parfait, il est... Ouais, il n'y a pas de mots, hein. Saint, des saints, il n'y a aucun mal en lui. Et quand on est devant lui, même si on vient avec Jésus, qui vient nous purifier de nos péchés, on sent quand même qu'on n'est pas saint, nous. Hein. On le sent, hein. Je ne sais pas vous, mais on le sent. Et du coup, quand on est dans sa présence, forcément, c'est comme un effet miroir. On se dit, mais Seigneur, j'aimerais tellement te ressembler, j'aimerais tellement être comme avec toi, j'aimerais tellement être comme ta nature. Et souvent, il y a un genre, quelque chose qui se passe où on reçoit cette nature de Dieu. Et on vit un temps de repentance dans ce temps de sabbat. Et en fait, depuis quelques mois, je suis travaillé par le fait de me dire que l'orgueil, le péché vient si facilement s'environner, se manifester en moi, qu'en fait, souvent, quand je prends des temps avec Dieu, des fois, ça bloque et je ne comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourtant, voilà, c'est pas ces temps-ci, voilà, je suis plutôt assez consacré. Enfin, ça va, quoi. Hein. Je me dis, je n'ai pas fait de gros péchés, enfin, sûrement, mais des petits péchés, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui bloque? Et ce qui bloque, c'est les petits péchés. C'est les petits péchés qui ressemblent à rien, mais qui sont des péchés aussi importants que les gros péchés. Et en fait, je vois le besoin de s'humilier. En fait, je n'ai jamais été autant à coucher dans ma chambre, dans la poussière. Moi, je suis assez dédaigneux. Hein. Je n'aime pas trop la poussière ou je n'aime pas trop me salir. Et en fait, Dieu me montre, vas-y, couche-toi. Et en fait, c'est la meilleure position pour adorer Dieu. Quand on est couché, vous savez, moi, je suis en plus... je ne vais pas dire. Couché par terre... Non, je ne veux pas proclamer des choses que je ne suis pas, donc je ne dis pas. Mais couché par terre, voilà, je sniffe la poussière, je commence à éternuer, tout ça. Et en fait, c'est la meilleure position, parce que là, c'est là où je peux que m'humilier, je peux que être dans la repentance et je peux dire à Seigneur, Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que j'ai plein d'erreurs, je sais que je suis pas saint comme tu es saint, mais Seigneur, je veux m'humilier, je veux mourir à moi-même parce que je veux te rencontrer. Et des fois, c'est vrai que ça nous bloque. Et donc, dans ce temps de sabbat, ce qui nous touche, c'est de vivre des temps de repentance. Cette année, je suis préoccupé, enfin l'an passé, cette année, ça va être l'année 2020, où je vais, mon défi de cette année, je vais vous dire ce que c'est, mon défi, c'est que Olivier soit à la deuxième place de ma vie. Je veux que le leader de ma vie, ce soit pas Olivier, qu'Olivier soit à la deuxième, ou troisième, ou quatrième, c'est égal, mais je veux que Jésus soit à la première place. Je veux vraiment que Jésus prenne toute la place. Et en fait, la seule solution pour le faire, vous savez, sur le trône, il n'y a pas la place pour, si on prend une chaise là et qu'on se met à deux dessus, et qu'on met, y en a un des deux qui va tomber. On ne pourra pas être à deux sur une chaise. Et bien le trône de Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas deux places dessus. Il n'y en a qu'une. Et le gros problème, c'est que si je prends ma vie depuis ces dernières années, celui qui est sur le trône, je ne sais pas, 98% du temps, c'est moi, c'est Bibi, c'est Olivier. Et ça, franchement, c'est rigolo, mais c'est un gros problème. C'est-à-dire que tant que je suis sur le trône, eh ben, Dieu n'est pas glorifié. Et tant que je suis sur le trône, en fait, il ne se passe rien dans ma vie. Et en fait, Dieu m'aime quand même, il m'aime quand même, hein, il m'aime autant si je suis sur le trône ou si c'est lui qui est sur le trône, mais il ne se passe rien. Et en fait, Jean-Baptiste, quand il est venu, il disait, il faut que je diminue, il faut que je baisse pour que lui puisse grandir. Et là, il y a une parole pour nous. Vous savez, si vous prenez l'exemple d'un disque dur ou une clé USB, elle a une certaine mémoire, une certaine capacité. Mais une fois qu'elle est remplie, qu'elle est pleine, si tu veux mettre une chanson dessus ou un film, t'as beau appuyer, prendre le dossier, le déplacer et le mettre dans la clé USB sur le bureau, et ben, ça va ressortir, ça marche pas. Et des fois, c'est ça notre problème. C'est qu'on est tellement plein de nous, notre disque dur, il est rempli d'Olivier, qu'en fait, il reste que des miettes au Saint-Esprit, il reste des miettes à Dieu. Et après, je dis au Seigneur, Seigneur, utilise-moi. Ouais, Seigneur, il voudrait bien m'utiliser. Mais s'il n'a pas de place en moi pour pouvoir m'utiliser, s'il n'a pas toute la place en moi, comment il va faire pour utiliser? Comment il peut faire? Il ne peut pas. Et cette année, mon défi, ma prière, c'est de dire, Seigneur, je ne veux plus être sur le trône. Fais que au moins la moitié du temps, je ne sois pas sur le trône. Fais que dans mes pensées, je veux être obéissant et je veux te laisser toute la place. Et comme Jean-Baptiste disait, je veux diminuer pour te laisser la place. Parce que si je n'y... C'est mathématique. Bon, je suis prof de maths. Mais c'est mathématique. Si on ne diminue pas, si vous avez une clé, si vous avez un sac de 10 kilos et que, ou une bouteille d'eau qui fait 10 litres, si vous mettez 9 litres d'eau, et ben vous ne pouvez pas mettre plus qu'un litre de liquide dans la bouteille. Voilà, révélation du jour. Vous avez bien fait de venir. Et ben pour nos vies, c'est pareil. Si sur ton trône, il y a 90% de toi, et ben ne t'attends pas à ce que Dieu prenne le contrôle de ta vie et qu'il puisse t'utiliser comme il a utilisé... Que ce soit Marie-Françoise ou que ce soit des hommes de la parole de Dieu, que ce soit Abraham et compagnie. Si je suis rempli de moi à 90%, Dieu ne pourra pas m'utiliser plus que 10%. Bon, 10%, c'est déjà bien, hein, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors après, dans ce temps de sabbat, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas tout dire, mais c'est un temps où on s'examine et on peut se dire, est-ce que je marche par la vue ou est-ce que je marche par la foi? Parce que souvent, pareil, si j'analyse ma vie, je sais pas, 98% du temps, je marche par la vue. Et ça aussi, c'est un drame. Parce que je lis la parole de Dieu et Dieu dit qu'il ne prend plaisir qu'à ceux qui marchent par la foi. Et moi, des fois, je suis le soir à me coucher, je me dis, aujourd'hui, Olivier, est-ce que tu as marché par la vue ou par la foi? Et honnêtement, si Dieu n'existait pas, j'aurais fait la même journée, la même chose, tout pareil. Il n'y a pas eu un truc où j'ai mis le petit pied dans, même pas le petit pied dans l'océan. Il n'y a rien, il n'y a presque rien eu. J'ai pensé à Dieu, mais je n'ai pas eu de moment de foi. Alors déjà, penser à Dieu, c'est de la foi, parce que Dieu, je ne le vois pas, donc c'est déjà de la foi. Mais je veux dire, hormis ça, des fois, j'ai fait aucun acte qui m'a coûté de me mettre en danger. Et souvent, si on n'a pas ce temps de sabbat pour s'examiner, les mois passent, les années passent, et on arrive à la fin 2020, et puis finalement, il s'est passé la même chose qu'en 2019, etc. etc. Bon, j'ai reçu une parole, alors je vais quand même la dire vite fait. J'ai reçu une parole pour nous tous, en particulier pour les jeunes.
Seigneur, multiplie le temps.
J'ai reçu une parole pour les jeunes, et pas que les jeunes, mais en particulier les jeunes. En fait, Dieu m'a montré, dans ce temps où on doit s'arrêter, que vous, les jeunes, vous devez vous arrêter plus que n'importe qui. Parce que vous, en fait, j'ai dit tout à l'heure, ce siècle dans lequel on vit, 2020, c'est une année quand même difficile. Je pense que les jeunes d'autres années, ils n'étaient pas autant tentés, ils n'avaient pas autant de difficultés à suivre Jésus que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas en France. Et en fait, la parole que j'ai pour vous, c'est de vous dire, non seulement il faut vous arrêter, mais il faut aussi regarder. Je sais que vous aimez Dieu, je sais que vous êtes, votre cœur il brûle pour Dieu, mais dans ce temps des smartphones, dans ce temps des Facebook, Instagram et compagnie, des réseaux sociaux, tout ce qu'il y a, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, vous allez vous faire voler votre jeunesse, vous allez faire des mauvais choix, vous n'allez pas être assez connecté à Dieu pour pouvoir vous sortir de toutes ces tentations qui sont là. Et en fait, le pire ennemi, souvent on se dit, on imagine le diable venir avec son bouc et puis ses cornes, et arriver devant nous comme ça, et puis nous dire, je vais te tenter. Et puis voilà, c'est gros comme une maison, si c'est le cas, on lui met un coup de pied, on lui dit, c'est bon, t'es démasqué. Mais le truc, c'est que le diable, il est quoi le diable? Il est malin, rusé. Et en fait, il vient pas comme ça. Et en fait, le diable, je crois que la meilleure arme qu'il utilise aujourd'hui au XXIe siècle, c'est ça. C'est ça, là. Ça, c'est une catastrophe, ça. C'est génial, mais c'est aussi une catastrophe. Et en fait, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je me suis souvenu de la prophétie que Enzo, il avait dit. Je ne sais pas s'il est là, Enzo, mais bon, en tout cas, il est là avec nous. Mais Enzo, une fois, il avait une parole sur nos téléphones portables. Et je me souviens, on avait tous levé nos téléphones portables en disant qu'on voulait le sanctifier. Mais à la fois, ça peut être une idole. Et c'est comme si on devait juste la jeter au feu, juste la détruire. Alors je ne dis pas ce soir qu'il faut détruire nos téléphones portables, ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ça, c'est un piège énorme. C'est un piège énorme, je ne veux pas dire toutes les raisons, vous les connaissez. Mais ça là, quand on parle du sabbat, quand on est en plein sabbat et que notre téléphone il sonne toutes les 10 minutes, et qu'on a envie de savoir qui c'est qui nous a écrit, ben ça nous coupe le sabbat. Et bon, c'est que pendant le temps de sabbat, mais toute notre vie, on peut passer des heures. J'ai vu une étude qui disait l'autre jour qu'on passe 9 heures par jour sur notre téléphone. Certains passent 9 heures par jour. Alors, quelqu'un m'a dit ça, mais je ne sais pas les chiffres exacts. Mais c'est énorme. Et que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, on est tous perturbés par cet appareil. Tous. On est tous perturbés par cette chose, par ce téléphone portable. Tous. Et en fait, si on veut vivre, comme je disais tout à l'heure, en laissant le Seigneur sur le trône, il faut qu'on règle ce problème. Et on va prier pour ça tout à l'heure, mais je voulais quand même vous le partager en vitesse. Je vais quand même continuer. Bon, vite fait, dans ce temps de sabbat, c'est un temps, imaginons le matin, tu te lèves le matin. Ça m'est déjà arrivé cette année, ça ne m'était jamais arrivé avant. Le matin, je me lève et j'ai une journée complète de retraite où j'ai rien, juste le sabbat pour observer Dieu. Et dans ce temps-là, c'est bizarre, mais le Saint-Esprit, il est vachement plus... On entend vachement plus, en fait. On se dit, mais comment ça se fait? Ben, c'est pas à cause du Saint-Esprit. Hein. C'est à cause que nous, on est beaucoup plus disponibles. Parce qu'on se dit pas, tiens, à 14h, j'ai tel rendez-vous. À 16h, faudra pas que j'oublie ça. Non, c'est une journée off, donc j'ai rien à faire. J'ai juste à être connecté avec Dieu. Et dans ces moments-là, en fait, Dieu nous parle. Alors, ça s'appelle le réma de Dieu. Et dans ces moments-là, Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et il nous forme, il nous met des choses en nous. Et ce qui fait qu'on devient vivant, qu'on devient flexible et qu'on voit les rêves, les destinées que Dieu il a en nous. Et Jésus, il était tout le temps en train de critiquer les pharisiens. Ben, je peux vous dire, les pharisiens, eux, la vie de l'esprit, la vie avec le Saint-Esprit, bon, à l'époque c'était compliqué, hein, c'était l'Ancien Testament, mais la vie de l'esprit, eh ben, ils ne l'avaient pas. Ils étaient secs, comme ce n'est pas possible. Ils étaient aveugles. Jésus dit, ne suivez pas des aveugles. Eh ben, on pourrait dire pour nos propres vies, si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit, tu es comme les pharisiens. Je suis comme les pharisiens. Tu es un aveugle, tu es sec. Dieu ne peut pas t'utiliser, Dieu ne peut pas te parler. Et ce temps de sabbat, vous avez vu, il y a plein de choses, bon, je ne vais pas tout dire, mais c'est un temps aussi de restauration. Et c'est un temps aussi pour vraiment ressembler et se recharger de la présence de Dieu. Et se recharger, Marie-Françoise a parlé du fait comment Dieu l'a restauré. Et je crois qu'en fait, on a besoin tous d'être restaurés. Et dans ce temps de sabbat, Dieu peut nous restaurer. Alors, je saute le verset, mais ce n'est pas grave. Et du coup, il y a un point aussi, Deuxième point qui est revenu fort en préparant ce message, c'est le fait d'être restauré par la parole de Dieu. En fait, ce qui va nous restaurer, c'est pas de passer du temps à regarder des séries sur notre téléphone, c'est pas de passer du temps à regarder la vie des autres sur Facebook et compagnie, c'est la parole de Dieu. On n'a qu'une vie, les amis, on n'a qu'une vie. Et ce truc-là, il est en train de nous voler notre vie, et en particulier les jeunes. Moi, j'aurais été à votre époque, ça, je suis sûr que ça m'aurait volé ma vie, je suis sûr, parce que je me connais. Et en fait, ça peut voler votre vie. Alors, peut-être, vous êtes plus confrontés à ça voilà, que nous, peut-être. Mais c'est un danger parce que du coup, ça là, ça vient remplacer notre façon de penser. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes, en fait, il vient. Et lui, ce qu'il veut, il sait qu'on a autorité. Il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'on est champion du monde. Bon, c'était une histoire que je voulais vous raconter. En fait, en 98, bon, moi je suis vieux, hein, mais en 98, j'étais jeune. Et en 98, la France a été championne du monde. Alors, je vous dis pour vous, parce que vous le savez, mais moi, quand je l'ai vécu, j'étais un fan de foot. Et pour moi, ça a été. J'étais pas vraiment chrétien. Donc, c'était presque un des plus beaux jours de ma vie, parce que la France a été championne du monde. Bon, elle a été aussi en 2018. Bon, alors, on va dire, voilà, pour ceux qui aiment le foot, en 2018, c'est le kiff de se dire que tu es champion du monde. Quand tu es un amateur de foot comme moi, et que ton équipe, elle est championne du monde de foot, en fait, tu es sur le toit du monde. C'est-à-dire que tu ressens un bien-être, une fierté, comme si les Français étaient le plus beau peuple de tous les peuples. Et du coup, c'est vrai, hein? Et moi, je me suis senti tellement fier d'être Français en 98. Et en fait, le présentateur qui a commenté le match de la finale de 98, il a dit, après ça, on peut mourir tranquille. Il l'a dit, hein? Il a dit, c'est bon, on est champion du monde, on peut mourir tranquille. Et en fait, j'ai envie de dire, moi, j'ai fait la fête toute la nuit, c'était la folie. Il n'y avait plus, c'était quoi, black, blanc, beurre. Il n'y avait plus de racisme, on était tous amoureux. C'était un truc de fou, hein. C'était spirituel cette histoire. C'était fou. On allait dans la rue, on s'embrassait, les Arabes avec les racistes, les Africains avec les Arabes. C'était un truc de dingue, un truc de dingue. On s'embrassait, on était là, il n'y avait plus de couleur, il n'y avait plus de race, il n'y avait plus d'âge, il y avait les jeunes, les vieux, il n'y avait plus de garçons, il n'y avait plus de filles, on était tous des champions du monde. Et en fait, je me souviens, cette nuit-là, ils ont dit que c'était la nuit où il y a les Français qui sont sortis dans la rue, ça a été la fête toute la nuit, autant que la libération, autant qu'en 1939-45, quand la France a été libérée de l'oppresseur allemand, et ben les gens étaient dans la rue pour fêter, dire « Ouais, on est libérés, on est libres, les gars, on est libres, on est libres, on est libres !» Et ben en 98, ça a été la deuxième fois où le peuple français s'est senti libre. Alors, c'était pas libre, mais c'était le côté, waouh, les gars, on est champion du monde. Alors, moi, j'ai chanté, je peux vous dire hein, ce que je chantais, hein, je peux vous chanter. C'était champion du monde, je suis champion du monde, champion du monde, champion du monde, on est champion du monde. Voilà. C'était le kiff de 98, j'avais 20 ans, c'était le kiff total. C'était wow, j'ai l'impression que ma vie allait changer pour toujours parce que j'étais champion du monde. Bon, 2, 3 semaines après, on se dit, j'étais quand même un peu couillon, hein, il y a 2 semaines, parce que mon père, il est assez fort pour me faire retomber les pieds sur terre. Il me dit, tu sais, ta vie, elle n'a pas changé, hein, tes factures, il faudra quand même les payer. Hein. Même si tu es champion du monde, l'essence, il faudra quand même que tu ailles la payer. Hein. Tu vas pas arriver à la pompe d'essence, champion du monde! Ah merde! Non, faut que je paye. Pas de chance. Pourquoi je vous raconte ça? C'est juste parce qu'en fait, j'ai réalisé il y a quelques mois qu'en fait, la victoire de Jésus à la croix, c'est la même chose, c'est pareil. Mais j'avais jamais compris ça à ce point-là. En fait, une fois, j'ai compris, il y a quelques temps, qu'en fait, Jésus, quand il est mort à la croix, il a vaincu la mort. Ok, bon, ça, je ne vous apprends rien. Hein, si vous êtes ici ce soir, en principe, vous le savez. Sauf que moi, en 98, quand je chantais là, ah, champion du monde, machin, on m'aurait dit, mais Olivier, tu es pour rien, toi. Toi, tu es champion du monde, mais tu as fait quoi? Tu étais devant ton poste de télé, à dire, ouais, tu n'as rien fait. J'étais même pas au stade, j'ai même pas encouragé les joueurs, j'ai rien fait. Pourtant, j'ai eu une facilité, une conviction pour me dire, je suis champion du monde. Comme si c'est moi qui ai marqué les buts, quoi. C'est moi Zidane, quoi. C'est moi qui ai fait la passe à Zidane, ou c'est moi qui ai arrêté le ballon contre le Brésil pour qu'on gagne. J'y suis pour rien, que dalle. Pourtant, je peux vous dire que quand j'ai chanté cette nuit-là, je sais pas quel jour de juillet, je peux vous dire que c'est comme si c'était moi qui avais marqué les buts. Hein. C'était pareil. Hein. C'est comme si c'était mes buts à moi. Tout ça pour dire quoi? Quand on réalise qu'en Jésus, on est plus que champion du monde, on est champion sur la mort, on est champion sur le diable, en fait, on a la victoire comme si c'était nous qui avons triompher à la croix. Et en fait, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que vous pouvez vous. Ah, c'est fini en théorie, mais c'est pas grave. En fait, on peut vivre sa vie chrétienne juste en disant, ouais, je sais, Jésus est mort à la croix pour moi. Voilà. Ou on peut dire, pour un non-fan de foot, ouais, la France a été championne du monde en 98. Mais quand on réalise que ce triomphe de Jésus à la croix, ce que Jésus il veut en fait,
c'est pas seulement qu'on sache qu'il est mort à la croix. Ce que Jésus veut, c'est que pour chacun d'entre vous ici, et pour tous les Français, et pour tous les habitants de cette terre, de réaliser qu'en fait, cette victoire que Jésus a fait à la croix, c'était pas Jésus sur la croix, c'était toi. Tu es mort et tu es ressuscité. La victoire de Jésus, c'est exactement la même que la tienne. Exactement la même. Mais quand tu as compris ça, quand on a compris ça, mais notre vie, c'est plus du tout la même. C'est plus jamais la même. Le matin, si je suis déprimé pour une raison ou pour une autre, moi je suis pas souvent déprimé, mais admettons je suis déprimé, je me lève, imaginons, j'ai pas envie d'aller bosser ou je sais pas, j'ai pas envie de rien. Je me lève, je suis là, hein, je m'assois, puis je prends mon temps avec Dieu, et puis je me dis... Si la pensée me vient de me dire « Je suis mort à la croix, je suis champion du monde, de la mort, je suis champion, j'ai la vie éternelle, je suis ami de Dieu, mais ma vie, d'un coup, mon humeur, mais wouhou, c'est là, même si j'étais pas bien, mais rien ne peut résister à ça, rien, rien ne peut résister à ça, rien. » Et ça, c'est quelque chose que l'Esprit Saint nous révèle. Et si vous n'avez pas cette révélation totale, et on l'a de jour en jour, hein, comme quoi on est mort à la croix et que cette victoire à la croix, c'est la nôtre, et bien, du coup, on rate quelque chose. Parce que du coup, cette victoire, moi, quand je vais en prison, hier, le vendredi, on a des groupes de parole où on se réunit en petits groupes. Hier, on était 4. Bon, bientôt, on sera plus, hein, mais voilà, pour l'instant, on est 4 parce que c'est compliqué le vendredi. Bon, bref. Et bien, il y en a un qui était là dans les 4. On a commencé des cours alpha avec Franck. Et du coup, il était là depuis le début du cours alpha. Et bon, je ne vais pas dire son nom, mais ce gars, au début, il est venu au cours alpha juste pour discuter avec les copains. Et il s'en fichait complètement, mais vraiment complètement, de savoir Jésus, machin, enfin, il s'en fichait. Mais vraiment. Pendant ce temps, je vais demander aux musiciens peut-être de remonter sur scène, s'il vous plaît. Et en fait, ce gars-là, en fait, il venait, puis au début, on parlait du péché, et puis lui disait, mais de toute façon, moi, vous savez, moi j'ai une bonne vie, bon, je suis en prison, mais en fait, moi, je fais du bien autour de moi. Bon, je vous dirai pas de quoi il est accusé, parce qu'en plus, c'est assez tragique, mais bref. Et il me disait, non, mais moi, je suis pas, voilà, moi, je suis pas mauvais, hein, moi, je fais des bonnes actions, j'aide mon prochain et tout. Ok. Et puis, on a prié pour, chaque semaine, on prie pour eux, on prie même régulièrement pour chacun des détenus. Et ce gars, c'était, de tous les groupes, c'était le seul qui était vraiment, il n'était pas contre, il était gentil, hein, mais vraiment contre l'évangile. Et en fait, hier, j'ai eu un temps où j'ai parlé de l'amour de Dieu. Et j'ai parlé, à chaque fois on parle de la croix. Et j'ai parlé du fait qu'on pouvait devenir enfant de Dieu. Et pour la première fois, à la fin, ça a duré peut-être 20 minutes, à la fin, il a reconnu, il a dit, c'est vrai, moi aussi je suis pécheur. Première fois. Et pourtant, je peux vous dire, c'était pas quelqu'un qui aurait mis les pieds dans une église. Et puis à la fin qu'on a discuté, il m'a dit, Olivier, ça fait plusieurs fois là que tu me parles de ton Jésus à la croix là. Ça m'interpelle ton truc là, ton histoire, ça m'interpelle. Tu pourrais me réexpliquer pourquoi Jésus il est mort à la croix ? Et là, quand il a dit ça, j'étais touché. Je me disais, c'est incroyable qu'il me demande ça. Parce qu'il y a quelques semaines en arrière, il s'en fichait royalement. Et je me dis, si ce gars, il capte, et je sais qu'ils sont en train de le capter, si ce gars, il capte ce que Jésus a fait pour lui, sa vie, c'est jackpot. C'est jackpot. Et c'est ce qu'on essaie de faire en prison. Alors du coup, j'avais prévu de vous présenter un peu la prison, mais bon, vu l'heure... Ouais, mais après j'ai encore une partie. Hein. Bon, je peux faire en 5 minutes, mais... Bon, alors je présente quand même vite fait. Donc en fait, en prison, il y a 3 actions qu'on mène. Et en fait, en prison, ce qui est extraordinaire, c'est une terre de mission incroyable. Dans le sens où en prison, ils sont tous réunis dans le même bâtiment. Et on va les voir en cellule, bah, ils sont là. Ils ne peuvent pas partir en courant. Ceux qui viennent au groupe alpha, enfin on fait des cours alpha, ils viennent... En fait, ils viennent pour se distraire, mais sauf que chaque semaine, ils entendent l'évangile. Et du coup, à force d'entendre l'évangile, comme la foi vient de ce que... Eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver ? Ils vont trouver la foi. Et on va faire des cultes. On a eu l'autorisation de faire des cultes il y a quelques jours. C'est trop bien. Ouais, on peut remercier le Seigneur pour ça. D'ailleurs, si tu peux mettre la vidéo, alors n'importe laquelle des deux. Et ça, en fait, ça fait... Il y a 2 ans... J'ai commencé à... La première fois en prison, c'était à Noël 2017. Je vous laisse regarder la vidéo. En fait, cette vidéo, c'est ce qu'on va vivre cette année. C'est, vous voyez tous ces détenus qui sont dans une même salle. La moitié, on va dire, les trois quarts, ils s'en fichent de Dieu. Les trois quarts, ils sont juste là parce qu'à la fin, il y aura un chocolat chaud qui sera servi ou parce qu'il y aura un bout de gâteau. Et ils sont juste là parce que plutôt que de rester dans une cellule presque toute la journée, on est quand même mieux de se retrouver dans une pièce comme ça où il se passe quelque chose. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qu'on va vivre cette année. Et ce qui est énorme, ce qui est incroyable, bon, tu peux rebaisser un peu, s'il te plaît, merci. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ces gens, ils vont venir parce qu'il y a un bout de brioche à manger, parce qu'il y a un café, parce qu'ils sortent un peu leurs cellules. Mais ils vont venir tous les 15 jours, il va y avoir une louange de dingue. Dans la louange, ils vont être touchés par la présence de Dieu. Il y aura des messages où on va parler de quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, qui va changer leur vie. Et ils sont tous réunis au même endroit. C'est-à-dire qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils vont être là. Ils vont entendre parler de Jésus. Et ça va être juste incroyable. Et cette année, moi, je m'attends à ce qu'il y ait tellement des visitations de l'Esprit de Dieu que des gens vont être foudroyés. Des gens vont tomber sous la présence de Dieu. Des gens vont être guéris. Des gens vont entendre parler de Jésus, vont accepter leur vie. Ça va être incroyable. Et je me dis, Seigneur, mais Seigneur, dans quel endroit on peut réunir, 100 personnes athées dans un endroit? Imaginons là, on est peut-être 150, imaginons 100 athées qui vont venir juste. C'est incroyable. Et je me dis, Seigneur, c'est une terre de mission incroyable. Et s'il vous plaît, pour nous soutenir, il y a plein de façons de le faire, mais la meilleure façon, c'est de prier pour nous. De prier pour eux, de prier pour ces cultes qu'on aura. Le premier, ça sera le 21, je crois, ou 20 février, je ne sais plus, dans un mois. Et ce sera tous les 15 jours. Tous les vendredis après-midi, entre 14h et 16h, on fait le cours alpha où on parle de la Bible. Et si vous pouvez prier, mettez un petit rappel peut-être, de vous dire le vendredi, entre midi et deux, ou pendant 5 minutes ou 2 minutes, je prie le vendredi après-midi parce que je sais qu'il y a des gens qui entendent parler de Jésus. Et de prier aussi pour nous, de prier pour moi, parce que je vais en cellule, je vois des gens qui vivent un enfer. Certains, ils sont là, ils sont innocents, d'autres, ils sont coupables, mais ils ont pris 15 ans et ils voient que leur vie, elle est juste brisée. Et en fait, il n'y a que Dieu. Moi, je suis là, des fois, j'écoute leur histoire et je ne peux rien faire. À part juste pleurer avec eux, je ne peux rien faire. Et après, je sais que Dieu, par contre, il peut faire quelque chose. Et dans cette aventure, il y a Franck qui est avec moi, avec qui on fait les cours alpha. Et vous pouvez prier aussi pour Franck. Alors Franck, en prison, voyez un aquarium, voyez un poisson, vous le jetez dans l'aquarium, c'est Franck dans la prison. C'est incroyable. Les gars, ils aiment Franck. C'est incroyable. Les gars, quand il n'est pas là, il n'est pas là Franck aujourd'hui. Bah non, il n'est pas là. Désolé, c'est que moi, désolé. Il sera là la semaine prochaine, mais il n'est pas là. Mais les gars, ils l'aiment. Et alors Franck, je vous ai dit, c'est un poisson dans l'eau. Franck, une fois, on sort du groupe du cours alpha, on descend les escaliers. Bon, Franck, il est là depuis pas très longtemps, il ne connaît pas trop comment ça se fonctionne la prison, mais c'est rigolo. Et il vient, et on sort, donc on est bloqué dans un couloir. Et puis Franck, en fait, il guette toutes les occasions. Il arrive, il voit un gars, il commence à parler avec lui. Je me dis, comment il fait pour parler? Le gars, on dirait qu'ils se connaissent depuis 10 ans. Il commence à parler avec lui. Et puis il commence à lui parler de Jésus, machin. Et à la fin, il lui sort même un flyer de Jésus, cours alpha, il lui donne. Sauf que le gars, c'était un musulman. Et les musulmans en prison, il ne faut pas trop rigoler avec ça. Et du coup, j'étais mort de rire. Et en fait, c'est Franck. Franck, il a la connexion avec les gens. Et Franck, c'est tellement un encouragement pour moi parce que c'est lui qui a eu l'idée de faire des cours alpha en prison. Et en fait, ça a été mon premier compagnon de route en prison. Et c'est juste incroyable. Et Franck, merci parce que cette aventure, elle est possible aussi parce que tu es là. Et parce que seul, j'aurais jamais rien pu faire. Et je suis heureux de partager ça. Et je sais que nos vies sont liées pour un bon bout de temps pour tout ce qu'on va vivre en prison. Et vraiment, j'ai tellement d'affection pour toi. Et je t'aime tellement que je suis tellement content de vivre ça avec toi. Merci en tout cas d'embarquer dans cette aventure. Et je voudrais aussi remercier David, parce que David aussi, il embarque dans l'aventure. Toutes les semaines, on prie chez Théo avec David. Vous savez, David, pour moi, c'est notre Abraham de clé. J'ai rarement vu quelqu'un avec une foi de dingue. Nous, au début, on priait pour la prison. On se dit, bon, Seigneur, si tu peux en convertir quelques-uns, ça serait chouette. David, il prie, il dit que les 900 personnes se convertissent au nom de Jésus. Et on n'en veut pas une de moins. On veut les 900. Et il le croit, hein, c'est pas juste... non, il le croit. Et en fait, je suis abasourdi par la foi de David. C'est un truc de dingue. Et merci David, parce que tu nous encourages tellement avec Franck, parce que ta foi, elle dépasse les montagnes, et nous, on en a bien besoin, parce qu'on voit que ça nous stimule et on a foi aussi. Et merci en tout cas pour cette aventure. Merci parce que tu es tout le temps en train aussi de m'encourager. Et vraiment, merci pour ça. Je voudrais aussi remercier Marc. Alors, je ne sais pas s'il est là, Marc. Bon, il n'est pas là, mais aussi, il nous encourage beaucoup. Et tous les autres qui vont nous rejoindre dans l'équipe. je ne vais pas vous les présenter. Juste pour finir, il y a quelque chose que j'ai dit en introduction, c'est qu'on soit des héros. Qu'on soit des héros pour 2020. Et en fait, on peut être des héros juste parce qu'il y a cette parole qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette parole-là, on sera des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et on sera des témoins juste aux extrémités de la France. Et vous savez, si Jésus il était sur terre aujourd'hui, il irait dans les endroits où on ne va pas. Jésus, à l'époque, il allait voir les prostituées. Jésus, à l'époque, il allait voir les toxicos, les alcooliques. Et je crois qu'il allait aussi, il serait allé en prison. Et je crois qu'en fait, c'est notre rôle d'aller dans des endroits inaccessibles. Comme la prison, mais comme d'autres endroits. Et pas besoin d'aller chercher des endroits compliqués. Hein. Vos collègues de boulot, tout ça, ça fait partie. Et il y a une clé, pour finir, que je voudrais juste vous partager. C'est que souvent, quand on voit ces passages où, si on prend dans Actes, les premiers apôtres, on prend par exemple l'histoire de Pierre. À cette époque-là, il y a marqué qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Souvent, quand on parle de prodiges et de signes miraculeux, on se dit, mais ça, c'est lié à l'Ancien Testament, aux actes des apôtres, pardon. Ou c'est lié, vous savez, à l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Là, il se passe des réveils de fous. Là, ils ont des guérisons, des prodiges de fous. Mais chez nous, c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est un mensonge. 2020, pour clé, ça va être notre année de prodiges et de miraculeux. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans la saison out. Et dans la saison out, nous, on met le petit orteil et Dieu, il fait le reste. Et parce qu'on est dans la saison out, parce qu'on est en train de sortir des quatre murs de l'église, parce qu'on prend des risques chacun dans notre vie, je veux vraiment encourager l'équipe de Mireille qui va dans les rues et qui fait un boulot de fou. On peut vraiment t'applaudir, Mireille, et toute votre équipe. Parce que vous êtes des précurseurs de ce que Dieu veut faire. Franchement, quand on se retrouve dans la rue à prier pour des gens qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas s'ils sont réceptifs, c'est waouh, là c'est la foi. Et Dieu honore ça. Et je crois que les miracles et les prodiges, Dieu va les faire cette année, comme il ne l'a jamais fait avant. Il va les faire cette année comme il les a jamais fait avant, parce qu'on est en train de sortir de la barque. Parce qu'on est en train de sortir de cette barque. Et vous savez, je ne vais pas lire les passages, mais Paul, il nous dit de parler en langue. Bon, j'imagine, si on faisait un sondage, beaucoup de gens, ils parlent en langue. Il nous dit, mais mieux que le parler en langue, c'est la prophétie. La prophétie, c'est l'encouragement divin. Prophétiser, c'est dire une parole d'encouragement pour quelqu'un, dire ce que Dieu veut dire à la personne de la part de Dieu. Souvent, nos églises, ce qu'on fait souvent quand on veut évangéliser, on témoigne, on donne notre témoignage, ok ? On vient, on voit la personne et on lui donne notre témoignage. Et c'est pas mauvais, c'est bon. Mais si on prend l'exemple, vous savez, il y avait Pierre et Jean, ils vont au temple et il y a un boiteux de naissance qui est devant le temple. Est-ce que Pierre, il a donné son témoignage au boiteux en lui disant « Ouais, je veux te dire Jésus ce qu'il a fait pour moi ». C'est pas ça qui a marqué. S'il avait donné son témoignage, ça aurait été cool. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « J'ai rien comme argent, mais ce que j'ai, je te le donne, sois guéri, lève-toi et marche ». Est-ce que le gars, il a été plus touché par un miracle ou par un témoignage de Jean ou de Pierre ? Qu'est-ce qu'il a le plus touché ? Qu'est-ce qui aurait le plus touché ce boiteux ? C'est le miracle. Et en fait, c'est simple. S'il y a un miracle, la personne, elle va se dire « Il s'est passé quelque chose dans ma vie ». Et en fait, je voudrais nous encourager, pour finir, à ce qu'on soit dans cette attitude de miracle. Le miracle, on a l'impression que c'est pour les autres, on a l'impression que c'est compliqué, mais le miracle, c'est pas compliqué, parce que Dieu a prévu de nous le donner, le Saint-Esprit a prévu de nous le donner. Et je vous encourage, je voudrais nous encourager tous cette année à se dire, je ne finirai pas l'année 2020 sans être un expert de la prophétie, comme je le suis aujourd'hui un expert du parler en langue. Parce que le parler en langue, est-ce que quelqu'un est capable de parler en langue ? Est-ce qu'avant d'être chrétien, vous étiez capable de parler en langue ? Alors le parler en langue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dieu qui nous donne un langage. C'est comme si, imaginons, je parle français et Dieu me donne de parler, je sais pas moi, italien, alors que j'ai jamais appris l'italien. Bon ben c'est ça, à part qu'il est dit que c'est des langues, la langue des anges, et c'est une langue qui glorifie Dieu, bon, etc., etc. Quand on prie en langue, c'est un don qu'on a reçu de Dieu, non ? Yes. La prophétie, c'est pas un don qu'on a reçu de Dieu ? Est-ce que c'est plus dur pour Dieu de nous donner la prophétie ou le parler en langue ? C'est pareil pour lui. Hein, vous êtes d'accord ? Par contre, si j'ai le parler en langue, Est-ce que ça me sert à grand-chose pour évangéliser, pour annoncer Jésus aux gens? Ça me sert à rien. Enfin, ça me sert pour prier, pour oui. Mais je veux dire, directement, ça me sert à rien. Par contre, si j'ai une parole de connaissance, si j'ai une parole prophétique pour quelqu'un, et que la personne, je lui dis, par exemple, je vois Marilène, et puis je suis dans le bus à côté de Marilène, puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à Marilène? Je ne connais pas Marilène, hein, elle est juste dans le bus. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et là, le Seigneur me dit, dis à Marilène, par exemple, que son problème d'accrochage de la voiture d'hier, c'est pas grave, parce que je vais pourvoir et elle aura l'occasion de s'en acheter une nouvelle. Ok. Bonjour, Marilène. En fait, je suis chrétien et en fait, on est à côté et j'ai demandé à Dieu s'il avait quelque chose à vous dire. Et puis Dieu m'a dit de vous dire de ne pas vous inquiéter parce que votre accrochage de hier, bah, c'est pas grave. Même si vous avez peur pour l'argent, que ça va vous coûter, c'est pas grave. Imaginons que ce soit vrai, hein, bien sûr, hein, parce que si c'est pas une vraie prophétie. Est-ce qu'après, Marilène, elle va se poser des questions par rapport à ce Jésus, par rapport au fait que je crois en ce Jésus? Est-ce que vous pensez que ça va ouvrir quelque chose, comme pour ce boiteux-là qui était devant le temple? Depuis la naissance, il était boiteux, et puis d'un coup, il a été guéri. Est-ce que vous pensez qu'après ça, le boiteux, il ne va pas rechercher Dieu? Est-ce que vous pensez qu'une parole comme ça à Marilène, est-ce que vous pensez que ça ne va pas lui ouvrir? Pas toujours, hein. Il y a des gens, ils sont guéris, mais ils ne vont pas voir Jésus, ils ne se convertissent pas. Mais quand même, ça ouvre les choses, ok? Plus que si j'avais témoigné à Marie, bon Marie, je suis chrétien, et en fait, Jésus a changé ma vie, puis je raconte mon témoignage. Ça va la toucher aussi, mais ça ne sera pas le même impact. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a prévu, c'est la prophétie. C'est pour ça que Paul nous dit de rechercher en priorité la prophétie. Et juste, on va prier maintenant, et je vais vous demander juste que si cette année, vous voulez prendre des risques pour Dieu, si cette année, vous voulez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, et que vous dites, en effet, dans les actes des apôtres, ce qui changeait les foules, ce qui faisait que les foules se convertissaient, c'est que les gens voyaient des prodiges et des miracles tout le temps, tous les jours, tout le temps, à chaque seconde. Et en fait, notre église clé, elle est appelée, et toutes les églises de France et de Montpellier, elles sont appelées à vivre dans le miraculeux et le prodigieux, dans les miracles et les signes surnaturels. Parce que le monde, notre monde a besoin de surnaturel. Notre monde a besoin de voir, de toucher Dieu, de voir que Dieu est présent. Et en fait, ma prière, c'est que le ciel puisse descendre sur cette terre et que le ciel puisse descendre dans chacune de nos vies pour que là où on est, on soit des témoins du surnaturel de Dieu là où on est. Parce que si moi je prophétise à Marilène, parce que je suis dans le bus avec Marilène, mais vous pouvez tous prophétiser là où vous êtes. Et imaginons chacun d'entre nous qu'on prophétise tous les jours, plusieurs fois par jour, mais Montpellier va être touché par l'amour de Dieu en un claquement de doigts. Et juste, je vous encourage, on va juste prier pour ça. Est-ce que vous pouvez vous lever? Et juste, si vous avez soif de vous dire, cette année, c'est l'année du miraculeux. Cette année, c'est l'année où je veux faire ce pas et je veux pouvoir voir les eaux qui deviennent solides pour pouvoir marcher dessus. Vous savez, moi, j'ai expérimenté ça depuis que j'ai commencé à prendre des risques, depuis que j'ai commencé à sortir de ma barque, d'aller en prison. Bon, j'aurais pu faire autre chose, hein, de n'importe quoi, mais de faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Ben, du coup, Dieu, il m'équipe. Dieu, il donne un équipement. Et je crois que cet équipement, il ne me l'a pas donné à moi parce que je m'appelle Olivier, parce que j'ai des beaux yeux. Mais il me l'a juste donné parce que j'ai fait un pas de foi. Et juste, ce qu'on va prier maintenant, c'est de dire, Seigneur, cette année, je veux faire un pas de foi. Et Seigneur, cette année, je m'attends aux miraculeux et aux prodiges. Je m'attends à des signes surnaturels. Et Seigneur, merci parce que les prodiges, ce n'est pas moi qui vais les faire, mais c'est toi qui vas les faire.